Et France Culture, il est tout juste midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est la fin d'une odyssée spatiale de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire. La sonde européenne Rosetta doit s'écraser dans quelques minutes maintenant sur la comète Tchoury, récit avec Nicolas Martin. Le cercueil de Shimon Peres mis en terre à Jérusalem après une cérémonie d'hommage en présence des dirigeants du monde entier, dont le président palestinien Mahmoud Abbas. Reportage d'Antoine Marette, commentaire du politologue Ilan Grelzhammer. 8 avions de combat Rafale décollent du porte-avions français Charles de Gaulle pour des opérations contre l'État islamique en vue de la bataille pour la reprise de Mossoul. Le quotidien USA Today publie un texte en forme de réquisitoire contre le candidat républicain Donald Trump qui aurait démontré, selon le journal, qu'il n'avait ni le tempérament, ni le savoir, ni la constance, ni l'honnêteté pour devenir président des États-Unis, comme la presse prend position là-bas. Analyse de Benoît Bouscarel. Au lendemain de la diffusion sur France 2 d'une enquête sur l'affaire Big Malion, François Fillon, candidat à la primaire, qualifie cette affaire de scandale et il appelle à ce que la justice passe dans des délais raisonnables, suivi de Stéphane Robert, l'invité de la séquence interview, Karima Delli, députée européenne et candidate à la primaire des Verts, dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
L'heure de notre côté est au bilan, celui des années Obama. On va tenter d'en dresser un bilan objectif avec la réalisatrice et productrice Norma Percy, qui sera donc notre invitée pour une série documentaire en 4 épisodes qui sera diffusée très prochainement sur Arte.
La sonde européenne Rosetta va donc s'écraser dans les minutes qui viennent sur la comète Tchoury. Destruction programmée, bien sûr, au terme d'une odyssée spatiale qui a duré tout de même plus de 12 ans. Rosetta, c'est la première sonde à avoir escorté une comète dans sa course. Pendant plus de 2 ans, selon l'Agence spatiale européenne, elle aurait récolté une abondante moisson de données qui occuperont sans doute les scientifiques pendant des décennies. Données recueillies notamment grâce au petit atterrisseur Philae qui s'est posé à la surface de la comète. On en a beaucoup parlé à l'époque et qui aurait permis donc de mieux comprendre comment se sont formées la Terre et les autres planètes du système solaire. Nous sommes en compagnie de Nicolas Martin. Bonjour.
Bonjour.
Comment se déroule donc, parce que c'est maintenant que ça se passe, ce crash programmé qui va intervenir peut-être dans quelques minutes.
Alors, crash, on y reviendra, c'est un bien grand mot, mais l'impact va avoir lieu, vous le disiez Antoine, dans quelques minutes, dans 8 minutes exactement, à 12h40, heure de Paris. Il faudra néanmoins attendre 40 minutes pour en avoir confirmation, le temps que les données parviennent à l'Agence spatiale européenne. Tchoury est à plus de 720 millions de kilomètres de nous. 720 millions de kilomètres, c'est 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil, donc c'est assez loin. Je vous le disais, s'écraser, c'est un bien grand mot, c'est plutôt une descente tout en douceur, une descente contrôlée, il n'y a quasiment pas de gravité sur la comète Tchoury, donc une attraction très faible. Rosetta descend tout doucement à la vitesse de 50 cm par seconde au début, ça fait moins de 2 km/h, vous voyez, la chute s'accélère là en ce moment jusqu'à 3 km/h, la vitesse de la marche à pied, vous voyez, c'est une descente bien bien calme, et tant mieux parce qu'à cette vitesse, Rosetta a tous ses capteurs allumés, elle envoie ses toutes dernières données, ses toutes dernières photos et ses toutes dernières analyses.
Voilà, donc on devrait mieux comprendre quelque chose sur la Terre et la formation du système solaire, mais est-ce qu'on a déjà appris quelque chose de nouveau et quoi précisément?
Oh, on a appris beaucoup de choses Antoine, la première chose, c'est peut-être la plus importante que Rosetta nous ait appris, c'est que l'eau de la Terre ne vient pas a priori des comètes. Oui, c'est une information en négatif, mais une information cruciale. On a longtemps pensé que l'eau liquide sur Terre venait des multiples impacts de comètes 500 000 ans après la formation de notre planète, dans un épisode qu'on a appelé le grand bombardement tardif, il y a 4 milliards d'années, parce que les comètes, contrairement aux astéroïdes, sont principalement constituées de glace. On pensait donc que c'était cette glace-là qui avait apporté de l'eau sur Terre. Raté, la signature isotopique de l'eau analysée sur Rosetta ne correspond pas à celle que l'on trouve sur Terre. Allez, en 2 mots, la signature isotopique, ça veut dire qu'on trouve dans les molécules d'eau 2 molécules d'hydrogène, 1 d'oxygène, si vous vous souvenez de vos cours de chimie.
Ouais, ça je m'en souviens
on
encore.
On trouve donc sur Rosetta plus de deutérium. Le deutérium, c'est un isotope, une variante, si vous voulez, de l'hydrogène que dans l'eau terrestre. C'est une information importante parce qu'il reste maintenant 2 options. Soit la comète Tchoury est à part et on trouvera sur d'autres comètes une signature isotopique similaire à l'eau terrestre. Soit il faut aller chercher ailleurs, sur les astéroïdes peut-être, mais il y a nettement moins d'eau sur les astéroïdes que sur les comètes. L'un des autres grands enseignements, une belle surprise de la mission Rosetta, c'est la découverte d'oxygène moléculaire dans les gaz qui échappent de la comète. C'est une surprise parce que l'oxygène est un gaz très volatile, très réactif, il se transforme très facilement au contact d'une autre molécule. Or, une comète, eh bien, c'est un peu comme un bloc de glace congelé, comme un congélateur des tout débuts du système solaire. S'il y a de l'oxygène, et pas qu'un peu, hein, c'est le quatrième gaz de la comète après la vapeur d'eau, eh bien, ça veut dire que l'oxygène date des origines de notre système solaire et peut-être même d'avant la formation de notre système solaire.
On respire mieux. Merci beaucoup. Nicolas Martin, producteur de La Méthode Scientifique, c'est tous les jours de 16h à 17h sur France Culture. Les funérailles de Shimon Peres ont été l'occasion ce matin d'un rassemblement de dirigeants du monde entier, de plusieurs prises de parole et même d'une poignée de main, d'une brève entrevue entre le Premier ministre israélien et le président palestinien. Benjamin Netanyahou a accueilli en effet personnellement Mahmoud Abbas en le remerciant au nom du peuple israélien de s'être déplacé pour ses funérailles. Brève entrevue donc qui ne devrait toutefois pas augurer d'aucun réchauffement des relations entre Israéliens et Palestiniens. Dans son éloge funèbre aussi, le président américain Obama a noté cette présence exceptionnelle dans l'assistance du président palestinien. Elle est, dit-il, le rappel que la paix est un chantier inachevé. On est sur place avec Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez assisté, vous, ce matin, sur le mont Herzl, à l'intégralité de cette cérémonie, de ces funérailles. Vous nous racontez.
Et on se souviendra notamment du discours de Benjamin Netanyahou, très ému. Lui est à droite, Shimon Peres était à gauche. Et malgré nos différences, nous sommes devenus amis, a rappelé Netanyahou. Lui disait, s'il y a la paix, il y a la sécurité. Je lui répondais, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de paix. Mais au fond, nous avions le même objectif, la paix qui n'appartient à aucun camp politique. Vient le tour des enfants de Shimon Peres. Pour sa fille Zvia, toute sa vie, il a été amoureux de sa famille, de l'État d'Israël et de l'avenir. Son fils Rémi s'adresse directement à lui. Tu n'as pas oublié la promesse que tu as faite à ton grand-père en fuyant la Pologne en 1934. Tu n'as pas oublié que tu étais juif. Barack Obama est le seul chef d'État étranger encore en exercice à prendre la parole, qui passe sur la tête. Dès le plus jeune âge, Shimon a été témoin de la cruauté humaine. Ça l'a rendu vigilant, mais ça n'a jamais durci son cœur. Cela l'a aidé à voir le monde tel qu'il devait être. Le président américain poursuit. Pour les jeunes générations, Shimon Peres a mis en place un processus de paix qui n'a jamais abouti. Certains le traitent de naïf, mais sa recherche acharnée de la paix n'était pas une recherche naïve. Shimon Peres s'en était persuadé. L'idée sioniste sera mieux protégée quand les Palestiniens auront leur propre État. Shimon, merci, a conclu Barack Obama. Un hommage à Shimon Peres du président américain en forme de coup de griffe à Benjamin Netanyahou.
Antoine Maret, merci beaucoup en direct de Jérusalem. On est en ligne avec le politologue Ilan Grelzhammer. Bonjour.
Bonjour Antoine.
À Shimon Peres est sans doute le dernier grand leader israélien et peut-être même mondial à pouvoir rassembler comme ça à ses obsèques autant de personnalités étrangères. Il faut dire qu'il a incarné donc cette phase, on l'a beaucoup dit, de retour du peuple juif en Israël. Il se dégageait peut-être ce matin une forme de nostalgie de cette cérémonie. Est-ce qu'en enterrant Peres, les Israéliens ont le sentiment aussi de changer un peu d'époque ?
Je pense que vous avez raison de parler de changement d'époque. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un phénomène émotionnel, très grande émotion, et des Israéliens et de beaucoup de gens dans le monde pour qui l'homme était symbole de la paix. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe un peu partout, non seulement en Syrie, mais ailleurs, il est certain que la disparition d'un homme identifié à la paix, c'est quelque chose qui frappe. Maintenant, c'est une toute autre question, la question politique, la question de savoir si les négociations de paix israélo-palestiniennes peuvent reprendre, comment elles peuvent reprendre, avec qui, etc. C'est vraiment quelque chose de totalement séparé et qui n'a pas grand-chose à voir avec le décès d'un sage, d'un père fondateur, qui représente, comme vous l'avez dit, une autre époque.
Et alors effectivement, la présence de Mahmoud Abbas ce matin, pour vous, c'est quand même un signe, même si ça ne veut pas dire grand-chose pour l'avenir.
Non, je ne crois pas que ce soit un signe. Ce qui s'est passé, c'est que, vous le voyez bien, les dirigeants arabes ne sont pas venus. Ce n'est pas un contexte politique dans lequel ils ont envie de se montrer aux côtés de M. Netanyahou, mais la famille de Shimon Peres a insisté auprès de M. Mahmoud Abbas pour qu'il vienne. Et je pense que c'est cela qui a joué. Il n'a pas voulu finalement dire il n'y a plus rien, plus d'espoir, plus de paix, plus rien. Il a voulu venir mais c'est le seul. Il n'y a malheureusement ni Al-Sisi, ni le roi Abdallah de Jordanie. Et ça montre bien que, pour l'instant, les choses en sont véritablement au point mort en matière de paix.
Merci beaucoup, Ilan Galzheimer, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous étiez en direct de Jérusalem. On dit un mot de la guerre en Syrie, toujours, alors que l'armée syrienne et les rebelles s'affrontent dans le nord d'Alep. Des avions de combat ont décollé ce matin d'un porte-avions français, le Charles de Gaulle, pour des opérations contre le groupe État islamique. Et cela en vue de la bataille pour la reprise de Mossoul, qui est très annoncée. On ne sait pas encore quand. L'armée française vient par ailleurs de déployer, on le sait, 4 canons d'artillerie César sur une base aérienne, donc au sud de Mossoul. Cette base qui a été reprise à la fin du mois d'août par les forces irakiennes et qui est appelée à devenir une plateforme logistique pendant cette offensive attendue. Aurélien Akkar nous parle de ces départs de Rafale.
Les 8 premières rafales ont décollé ce matin du Charles de Gaulle un peu après 6 heures. Le porte-avions se trouve actuellement dans l'est de la mer Méditerranée. Pas de précision ni de détails sur la véritable mission de ces avions qui peuvent aussi bien faire de la reconnaissance que prendre part à des frappes aériennes. Les avions de chasse français sont en tout cas partis en direction de l'Irak où la coalition menée par les États-Unis va engager la campagne pour reprendre le contrôle de Mossoul. La deuxième ville du pays est sous le joug du groupe État islamique depuis 2014. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a prévenu que la mission du porte-avions Charles de Gaulle durerait jusqu'à la fin du mois d'octobre. On peut donc en déduire qu'il s'agit surtout de définir les cibles à Mossoul avec plus de précision, car cette bataille ensuite se jouera surtout au sol avec l'armée régulière irakienne, une guérilla urbaine qui s'annonce extrêmement compliquée dans une ville de 600 000 habitants.
À un mois et demi maintenant de l'élection présidentielle aux États-Unis, les grands journaux prennent tour à tour position et le plus souvent contre Donald Trump. Hier, c'était au tour du quotidien USA Today de publier un texte en forme de réquisitoire contre le candidat républicain Donald Trump. Écrit ainsi, le comité éditorial a démontré de manière répétée qu'il n'avait ni le tempérament, ni le savoir, ni la constance, ni l'honnêteté pour devenir président des États-Unis. Et le journal explique qu'en 34 ans d'existence, eh bien, il n'avait jamais encore pris position dans une course à la Maison-Blanche, mais que là, cette fois, le profil du candidat républicain l'y obligeait, Benoît Bouscarel.
A serial liar, vous parlez anglais Antoine, voilà comment USA Today qualifie Donald Trump, un menteur en série qui use régulièrement de la big lie technique qui consiste à répéter un mensonge jusqu'à ce que les électeurs commencent à le croire. Voilà une des 8 raisons listées par l'éditorial du journal pour justifier sa prise de position inédite, vous l'avez dit. Si Donald Trump, aux yeux du comité éditorial de USA Today, unanime, est unfit for the presidency, pas fait pour la présidence, c'est par exemple aussi qu'il parle imprudemment. Le journal rappelle cette déclaration juste après la convention républicaine quand Trump avait appelé les hackers russes à rendre public de nouveaux emails d'Hillary Clinton. Aussi dangereux, d'après les auteurs du texte, que la trouble admiration dont Trump fait montre pour les leaders autoritaires, comme Poutine d'ailleurs. Et de manière générale, continue-t-il, par indifférence ou ignorance, Trump a trahi les engagements fondamentaux pris par les présidents des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aux yeux du USA Today, Trump manque également de transparence dans ses affaires. Il est trop léger, beaucoup trop léger sur la politique étrangère, grossier et inconstant sur nombre de ses propositions erratiques, écrit le journal, en rappelant que sur 20 sujets importants de la campagne, Trump a changé d'avis 124 fois. Ça, c'est une enquête d'NBC qui est reprise et citée par USA Today. Sans pour autant prendre parti pour Hillary Clinton, le journal conclut son éditorial par un appel au vote malgré tout, résister aux sirènes d'un dangereux démagogue et quoi qu'il arrive, voter, oui, mais pas pour Trump.
USA Today, c'est pas évidemment le premier journal et ça sera peut-être pas le dernier à prendre position contre Trump.
Oui, elles ont été relancées, ces prises de position, par le Washington Post. Alors que, vous le savez, les votes par anticipation ont commencé aux États-Unis, les choses accélèrent dans la campagne. Le Cincinnati Inquirer, le Dallas Morning News ou encore le Houston Chronicle, autant de titres plutôt conservateurs, rappelle le Washington Post, ont pris parti dans les toutes dernières semaines contre Trump, voire pour Clinton, le dernier en date, ce mardi, l'Arizona République qui qualifie le vote Clinton de choix meilleur.
Voilà, est-ce que cette mobilisation aura un impact sur la campagne? Cela reste encore à prouver. Merci Benoît Bouscarel. La politique française maintenant est toujours dominée par la bataille pour la primaire à droite. La campagne de Nicolas Sarkozy est déstabilisée par plusieurs attaques venant d'ailleurs de son propre camp. Avant-hier, c'était son ancien conseiller Patrick Buisson qui mettait en cause dans un livre sa stature politique. Hier, Jean-François Copé affirmait dans Le Monde que l'ancien chef de l'État était à nouveau candidat pour échapper à la justice. Et ce matin, au lendemain de la diffusion sur France 2 d'une enquête sur l'affaire Big Malion, c'est François Fillon qui qualifie l'affaire de scandale, qui appelle à ce que la justice passe dans des délais maintenant raisonnable. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Attaque qui touche donc au cœur du système Sarkozy. Est-ce qu'elles vont avoir pour autant un impact sur la campagne?
Oui, alors vous avez ces propos de François Fillon sur l'affaire Big Malion et sur la nécessité d'établir les différentes responsabilités. Il sous-entend bien évidemment que Nicolas Sarkozy n'est pas innocent dans cette affaire. Vous avez également Bruno Le Maire, hier soir, sur Twitter, qui à 22h05, au moment du début de la diffusion du documentaire sur France 2, qui a écrit que ses comptes de campagne à lui pour la primaire était disponible sur son site internet et des comptes mis à jour régulièrement. Il y avait donc une volonté manifeste de faire la comparaison avec les zones d'ombre qui entourent les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et vous avez tout un tas de faisceaux convergents comme ça qui mettent en cause Sarkozy, plus précisément qui tentent à montrer qu'il s'affranchit de toutes les règles, qu'il est susceptible de faire à peu près n'importe quoi sur le plan judiciaire avec Big Malion. On est là bien sûr dans le domaine du soupçon, mais à l'appui de ce soupçon, il y a quand même une mise en examen. Mais aussi sur le plan politique avec un Alain Juppé qui se positionne clairement comme un homme d'État responsable qui lui ne raconte pas n'importe quoi et qui ne fera pas n'importe quoi si on lui confie le pouvoir. Et puis vous avez cité avec ce livre aussi qui vient de sortir de son ancien conseiller Patrick Buisson, La cause du peuple. Buisson dépeint un Nicolas Sarkozy obsédé par son image, versatile, colérique, sans véritable colonne vertébrale. Bref, on a un peu l'impression que c'est l'heure du bilan pour Nicolas Sarkozy, bilan judiciaire, bilan politique, alors qu'il prétend à un nouveau mandat. Alors, est-ce que c'est susceptible de lui nuire pour la primaire? Eh bien, on peut dire que ça ne fera pas changer d'avis tous ceux qui croient encore en Nicolas Sarkozy, ce qu'on appelle les sarcolâtres. Ça ne fera pas changer d'avis non plus ceux qui ne veulent plus en entendre parler, qui voteront contre lui, quoi qu'il arrive. Non, c'est plutôt du côté des indécis que ça peut jouer, ceux qui jusqu'ici pouvaient se dire « bon, pourquoi pas? Il a quand même été chef d'État. Ce procès en irresponsabilité peut les dissuader de voter pour lui. En tout cas, les toutes dernières enquêtes d'opinion montrent qu'il ne progresse plus face à Alain Juppé. Au contraire, il serait en train de se tasser.
Stéphane Robert, merci beaucoup pour la séquence interview. Nous accueillons Karima Delli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne et candidate pour la primaire des Verts qui aura lieu, combien, dans 15 jours?
Dans 15 jours.
À peu près, c'est voilà. Ça. Est-ce que c'est aussi violent chez vous? Non, quand même pas.
Non, il n'y a pas encore. Je pense qu'il n'y aura pas du tout. Il n'y a pas pour l'instant de division. On est dans l'addition. Même si on a quand même des projets totalement différents et des incarnations totalement différentes. Et c'est tant mieux.
Peut-être une petite question sur cette primaire à droite. On a Daniel Cohn-Bendit, chez vous, qui a été votre tête d'affiche pour les européennes en 2009, derrière lequel vous avez été élu, qui a appel en début d'année, là, février 2016 encore, a appelé à voter Juppé parce que c'était pour lui le moins pire des candidats. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je crois que je suis de la génération, j'ai voté la première fois au présidentiel le 21 avril 2002. 14 ans après, on me redessine le même scénario en me disant faites attention parce que en finale, il y a Marine Le Pen. Et moi, c'est hors de question. Je me résigne pas. Il nous reste encore 6 mois.
Juppé, Le Pen, vous savez pas pour qui vous votez.
Non, mais d'abord, il faut que je gagne la primaire. Et puis quand j'arrive, on pourra peut-être parler d'autres candidats au second tour. Mais moi, je veux absolument que les idées écolos soient présentes dès le premier tour aux élections présidentielles.
Donc, vous organisez une primaire. Mm-hmm. Les militants Europe Écologie Les Verts, mm-hmm. aujourd'hui, c'est quelques milliers de militants. C'est une primaire entre vous.
Il faut rappeler les candidats peut-être.
Oui, alors Karima Delli, vous êtes Michel Rivasi, Cécile Duflot, Yannick Jadot.
Voilà.
Quatre candidats, quelques milliers de militants. Vous avez l'impression qu'il y a lieu d'organiser une primaire entre vous alors que vous êtes beaucoup moins qu'auparavant, que quand vous avez passé un accord avec les socialistes. Est-ce que c'est judicieux ça, cette espèce de primaire dans une cabine téléphonique là?
Alors, elle n'est pas dans une cabine téléphonique, faut faire attention. Après le retrait de Nicolas Hulot, moi j'ai demandé et j'ai imposé une primaire. Tout simplement parce que pour moi, il n'y avait pas de candidat naturel de l'écologie. Chez nous, il n'y a pas de candidat naturel de droit divin. Et je voulais imposer une primaire parce que c'était l'occasion aussi de montrer, et c'est pour ça que moi je vais dans cette primaire, je suis candidate. Je veux être là pour aussi incarner une nouvelle génération qui porte l'écologie. J'en ai, vous savez, vous avez parlé de Daniel Cohn-Bendit. Moi, j'étais un peu la surprise de 2009, on a été capable de faire un score incroyable aux européennes. Il y avait un élan, il y avait une dynamique, il y avait une véritable diversité de personnalité. 7 ans après, c'était pas il y a un siècle, 7 ans après, aujourd'hui, les gens ne votent plus pour nous. Pourquoi ils votent plus pour nous? Parce que on a renvoyé une image de politicien, de stratégie totalement illisible. Et donc ma candidature, elle est très simple. C'est de dire, il est grand temps de tourner la page.
Alors vous voulez tourner la page, incarner quelqu'un de notre génération, dites-vous. Mmh. Mais enfin, sur le fond, sur quoi vous insistez? Sur votre programme, en quoi se spécifie-t-il, se caractérise-t-il?
Alors, sur mon programme, tout d'abord, au lendemain de mon élection à la présidence, les 3 mois qui suivent, je proposerai aux Français un référendum, notamment pour une nouvelle constituante. Je pense que les Français ont soif de démocratie. Lorsqu'on les consulte, ils sont présents. Moi, je me souviens du référendum du TCE en 2005, ils étaient présents. Aujourd'hui, il y a énormément en France de mouvements qui réclament cette démocratie. Donc, donnons le pouvoir aux citoyens. Donc, faisons une constituante, une nouvelle constitution participative avec les citoyens. Avec moi, je donnerai quelques pistes dans cette nouvelle constitution. Par exemple, moi, j'aimerais qu'on ait un vice-président aux affaires internationales et aux affaires européennes, parce que moi je vous le dis, je suis députée européenne, j'en ai ras-le-bol.
On va en parler de l'Europe.
Ouais. Oui. J'en ai ras-le-bol du double discours à Paris et à Bruxelles.
C'est-à-dire
exemple très concret. Moi, je travaille beaucoup sur notamment le scandale Volkswagen et notamment la pollution de l'air. Lorsqu'on a une ministre de l'Environnement qui s'appelle Madame Ségolène Royal, qui dit à l'Europe, donnons des permis à polluer aux constructeurs automobiles qui ne respectent pas les normes, en France, lorsqu'elle est invitée sur les plateaux télé, elle dit, regardez ce que fait l'Europe alors qu'elle a pris cette décision-là. C'est un scandale.
Oui. Ça, c'est pas un cas unique, c'est un peu fréquent chez les politiciens.
C'est un cas unique, je crois qu'on se sert de l'Europe comme bouc émissaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer l'Europe, au contraire, il faut insister sur la démocratie européenne qui n'existe pas. Donc il faut
De démocratie participative, l'Europe, c'est pas non plus terrible.
Ben justement, l'Europe n'est pas aimée. Et moi, je crois que pour la faire aimer, il faut faire participer les citoyens, d'où le centre de cette campagne, ça va être la démocratie. Voilà.
On a un peu envie de vous demander, pour cette primaire écologiste, parce qu'il faut d'abord que vous la remportiez avant d'être candidate, qu'est-ce qui vous différencie d'avec Cécile Duflot, avec Yannick Jadot, avec Michel Rivasi? On a vu, il y a eu quelques jours, un débat entre vous, et il y a Public Sénat qui a publié un article, ils ont fait le jeu des 7 différences parce qu'ils n'en trouvaient pas justement. Mmh. On a l'impression que vous êtes tous d'accord sur la même chose. Alors, pourquoi voter plus pour vous, pour Cécile Duflot ou pour Yannick Jadot?
Moi, je fais partie de cette génération qui vient des classes populaires. Moi, j'ai la chance d'avoir un père ouvrier et d'être la 9e de 13 enfants. Et c'est vrai que dans ce paysage politique, les classes populaires ou même les ouvriers n'ont jamais été représentés. Ça, c'est la première chose. De montrer à quel point l'écologie, c'est pas un luxe pour les bobos. L'écologie, c'est d'abord pour les classes populaires parce que sans écologie, elles ont tout à perdre. Donc moi, je veux insister pour montrer à quel point, je vais prendre un exemple aussi très concret, par exemple. Ce n'est pas normal que de 2006 à 2013, on voit que plus de 30% des ménages les plus pauvres sont dans la précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se chauffer. Et ça a des conséquences directes, c'est-à-dire un logement qui est mal isolé, qui est mal chauffé, c'est des populations qui sont déjà précaires, qui sont très malades. Si on avait du courage politique, il fallait mettre en place tout de suite un grand plan de rénovation thermique qui crée de l'emploi. Hein. C'est sur 20 ans, parce qu'il y a 7 millions en France de passoires énergétiques. Et la priorité, c'est ces gens-là. Les gens ne sont pas condamnés à la malbouffe, notamment les populations les plus précaires. Les gens ne sont pas condamnés justement à dire que l'écologie, c'est réservé à une élite. Non, l'écologie, c'est pour tout le monde. C'est ça le nouveau projet qu'il faut marquer.
Et justement, est-ce qu'il y a une appétence pour un candidat écologiste? Est-ce que vous, est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu d'écologie chez tous les candidats aujourd'hui? Tout le monde est un peu écologiste, non?
C'est d'abord, c'est les Français qui sont écolos. Les Français, ils trient leurs déchets, ils font attention à leur consommation d'énergie, d'eau, même de viande. Ils s'émeuvent du réchauffement climatique, ils s'inquiètent de la condition animale. Ils sont écolos. Quand vous me parlez des partis politiques, on se sert de l'écologie comme un gadget, un supplément d'âme, quel que soit. Vous regardez le gouvernement de Sarkozy qui avait fait le Grenelle de l'environnement. Les conclusions, c'est que maintenant, Monsieur Sarkozy est un climato-sceptique. Et quand je regarde ce gouvernement, Mais je suis choquée qu'on n'ait pas d'écotaxe. Je suis choquée que là, le dernier grand projet, c'est 1 milliard d'euros sur les autoroutes. Mais les autoroutes, c'est la pollution. On nous dit aujourd'hui que la pollution de l'air, c'est la maladie du 21e siècle. Et en plus, respirer-tu. À un moment, il faut siffler la fin de la récré parce que derrière, c'est la santé des gens, c'est l'intérêt général. Et donc, il faut passer à autre chose et de montrer que l'écologie, eh ben, c'est plus le plan B, c'est le plan A.
Karima Deli, merci beaucoup
merci
d'avoir accepté notre invitation. Un temps qui s'est dégradé par l'ouest ce matin, nuages et pluie, donc sur tout un quart nord-ouest. D'ailleurs, il y a encore du soleil, des températures en légère baisse, mais encore 18 à 29 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Jean-François Braun. À 17h, le magazine de la rédaction, Choc climatique au Malawi, un pays en état d'urgence. C'est un reportage de Véronique Rebérotte, réalisé par Annie Brault, présenté ce soir par Marie-Pierre Véraud. Et le prochain journal est à 18h avec Anne Fauquemberg.